Compagnons de l'Orbe, épisode 2.
Dans l'épisode précédent, l'elfe a rencontré la druide en forêt et lui a raconté sa vie en lui faisant une beauté. Wally ouvrit de grands yeux et resta sans voix devant le reflet de sa propre image. Impossible, c'est pas moi, pensa-t-elle en s'emparant de la glace cerclée d'argent. Outre sa chevelure magnifique, son visage était devenu celui d'un ange, d'une beauté à couper le souffle. Une peau lisse et douce comme la soie, les sourcils finement épilés, en courbe parfaite. De longs cils doucement recourbés et les lèvres à peine relevées d'une couleur naturelle. Submergé d'une émotion qui lui fit venir les larmes aux yeux, Wally étreignit sa nouvelle amie, abasourdie par cette gentillesse spontanée et sincère. Éoliel essuya délicatement une larme au coin de l'œil de la druide qui lui sourit et la gratifia d'une accolade bourrue. « Regarde-le, l'autre là-haut, il a l'air content lui aussi. Mais on dirait bien qu'il voudrait qu'on le suive. Ça tombe bien, c'est par là que j'allais justement, on y va ?»« Bah si tu veux, mais ça mène où ?» À Tornetrogne, on va s'éclater. Ah bon? Y a quoi là-bas? Non mais tu connais pas Tornetrogne? C'est l'un des endroits les plus en vogue de la contrée. Une grande ville qui ne sert qu'à faire la fête, et ce, à longueur d'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est installée à peu près à égale distance des plus grandes universités. Là-bas, c'est la fiesta en permanence. En plus, en ce moment, c'est Susvinas. Pas terrible comme nom, c'est quoi? Ah bah dis donc, tu débarques d'où, toi? Tout le monde connaît Susvinas. C'est la grande foire annuelle des viticulteurs, brasseurs et bouilleurs de crue. En fait, ils apportent tout leur reste de l'année et mélangent dans d'énormes tonneaux. Ils utilisent ensuite un enchantement connu uniquement des moines tonneliers qui donne au breuvage un goût qui change en fonction de l'humeur de celui qui la boit. Pas mal, hein? Éoliel resta dubitative. Mais c'est quoi le but final de l'opération? Très bonne question, ma chère. En fait, la boisson en question est assez peu alcoolisée et il faut en boire des tonneaux pour sombrer dans une ivresse qui ressemble à aucune autre. Et tu vois, tout le monde s'y retrouve parce que les producteurs vendent la dite boisson au même prix dans tous les établissements. Ils se font un joli bénéfice en écoulant leur stock. Les moines vendent les fûts et les chopes de chêne cerclées d'acier. Ils sont les seuls à les fabriquer spécialement pour l'occasion. Les taverniers, les aubergistes, les marchands ambulants profitent de la foule immense qui se rend chaque année à cette fête mythique pour se faire un joli pactole. Dis donc, ça doit être quelque chose l'ambiance là-bas. Oh là, t'as pas idée. À ce qu'on raconte, on rencontre sur place toutes sortes de créatures. En plus, c'est bourré d'échoppes avec des tas d'objets magiques et d'équipements. Eh, au fait, t'allais faire quoi avec tes verres de vase, tu m'as pas dit? Éoliel prit un petit air innocent. Ah oui, les verres! En fait, ça rentre dans la composition du baume pour visage que je viens de t'appliquer, expliqua-t-elle désinvolte avant de détaler en éclatant de rire. Ah! Vengeance! S'écria Wally en fonçant à la poursuite de l'elfe filant comme le vent. Après un quart d'heure d'une course folle, il lui fallut se rendre à l'évidence. Il lui était impossible de la rattraper, alors autant utiliser la ruse. Wally se changea donc en chauve-souris, rejoignit Éoliel assise sur un gros rocher moussu et se planta devant elle. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas !» triompha la druide en reprenant sa forme humaine avant de se ruer sur l'elfe prise au piège, dont elle ébouriffa sans pitié la blonde chevelure en riant à son tour. « Tiens, espèce de petit cochon rose, ça t'apprendra à étaler des gros verres dégoûtants sur mes joues !»« Mais protesta l'elfe en se tortant de rire. « Attends, regarde !» La blondinette se releva gracieusement et d'un mouvement très féminin fit voler ses cheveux autour d'elle. Ces derniers reprirent l'exacte place qu'ils occupaient avant l'intervention de Wally, qui ne put que constater son impuissance face à la beauté très énervante de l'elfe. C'est en babillant gaiement que les deux jeunes femmes arrivèrent sur la grande route de Tornetrogne, où de nombreux badauds s'acheminaient vers l'exubérante cité dans une ambiance de fête. Ce n'est pas pour rien qu'on avait bâti Tornetrogne au milieu de la forêt. En effet, cette ville était entièrement dédiée à la fête, et donc incroyablement bruyante. Pour l'heure, la foule qui s'y engouffrait en masquait en grande partie le décor. Wally entraîna sa nouvelle amie vers les hauteurs de la ville. Les quatre entrées surmontées de lourdes arches de pierre ouvraient sur de larges avenues menant vers le centre. Tout avait été agencé de façon à ce que les façades des bâtiments donnent sur la vaste scène qui occupait le milieu de la ville. Vu d'en haut, Tornetrogne ressemblait à une arène géante, dont les tribunes étaient les rues. Elle s'élevait en cercle concentrique, bordé de commerces, qui, adossés aux murs, offraient une vue imprenable sur le spectacle permanent. Banderoles, lampions, guirlandes et autres décorations multicolores ajoutaient à l'ambiance naturellement festive de l'endroit. Tornetrogne offrait aux voyageurs tout ce dont ils pouvaient rêver. Des dizaines de bars, auberges, estaminets et autres tavernes jouxtaient des échoppes proposant un choix inépuisable d'objets hétéroclites. Éolia écarquilla les yeux en embrassant du regard cette invraisemblable cité. Waouh, c'est hyper grand! Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de troquets? C'est impensable! Bah non, c'est normal. Devant chaque établissement, les spectateurs peuvent manger et boire en regardant les concerts et autres spectacles. Ici, tu peux rencontrer toutes sortes de créatures, des plus fluettes aux gros monstres balouins. Ah ouais, c'est vrai? Des monstres, des gros? Ouais, on est au bon endroit. Le palier le plus haut est destiné aux établissements capables de recevoir les créatures massives. Bah, c'est pas bizarre, ça, le plus haut réservé aux créatures les plus lourdes. L'endroit ne leur est pas réservé, disons plutôt qu'il leur est destiné. Et puis, c'est du solide. Ici, tout a été bâti par les nains, qui faisaient la fiesta, les beuveries et les concours les plus stupides.
Du genre?
Du genre très stupide, répondit Wally en pouffant. Des batailles à coups de saucisses géantes dans les piscines de bière, le prix de la plus grande quantité de bouffe collée dans une barbe, la plus longue, la plus grosse, la plus frisotée, anomalie pileuse, et j'en passe. Bref, tu vois le genre, quoi, tout dans la finesse.
Et c'est si petit qu'on le dit, hein, nain?
Oh, non mais je rêve! T'en as jamais vu?
Enfin, t'as passé ta jeunesse en haut d'un arbre ou quoi?
Les deux femmes se glissèrent dans une taverne aux proportions démesurées. Le bar leur arrivait au menton. Sans parler des tabourets qui nécessitaient une séance d'escalade pour pouvoir s'y jucher. Des bœufs entiers rôtissaient dans des fourneaux géants, tandis que des chopes, grosses comme des tonnelets, encombraient tous les plans horizontaux disponibles. Une quantité d'alcool local coulait à flot, ingurgitée de façon tout à fait déraisonnable par des êtres de toutes sortes, tous plus grands, gros et effrayants les uns que les autres. Éoliel était subjuguée par ces personnages monstrueux dont elle observait les spécimens de près pour la première fois de sa vie.
Hé, remets-toi, Raya Wally. Tiens, regarde là-bas. T'as pratiquement toutes les espèces de trolls des trois plans.
Les tout petits qu'on trouve dans les bois et qui sont souvent des espèces de mauvais génies. Et les maousses qui débarquent des montagnes, genre très très bourrins. Là-bas, il y a un ogre fourreur. Il y a même un centaure, tiens, regarde. Là, un bras roc. C'est une espèce de golem de pierre. Tous ces monstres sont habituellement potentiellement dangereux, en particulier les trolls. Du coup, pour accéder à Susvinas, ils doivent se soumettre à un enchantement hyper puissant. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on comprend ce qu'ils racontent.
Et c'est pour ça aussi qu'ils se bagarrent pas?
Ouais, bah plus ou moins en fait. Ils viennent pratiquement tous de très loin pour faire la fête dans cette taverne mythique. Il paraît qu'on y a même aperçu le légendaire Zeyrman, dont on raconte les aventures dans toutes les écoles du plan. Mais je sais pas si c'est vrai. Le fluotréal réapparut comme par enchantement. Survola les deux filles, puis partit se poser sur la tête d'une des créatures qui semblait se livrer à une sorte de jeu avec un humain au teint blafard.
Hey, t'as vu, s'exclama Éoliel, soudain tout excité. Il s'est posé sur la tête du gros machin là-bas, comme pour nous le montrer.
Il est pas un peu bizarre celui-là, je veux dire, par rapport aux autres.
Mon devoir?
Bah, c'est un troll des montagnes, mais t'as raison, j'en ai jamais vu de comme ça. Il fait étrangement humain.
Hey, regarde le fluotréal, insista l'elfe. C'est sûrement un signe, il faut qu'on aille lui parler.
Le petit messager semblait en effet désigner avec insistance l'imposante créature.
Hey, cucui! Psst, c'est à toi, la fiche du gros machin.
Je sortirai la fiche quand tu m'auras trouvé un nom.
Un nom? Ah, voyons voir. Fluotréal... Flubert, ça tirait?
Le bouillant volatile sembla réfléchir un moment avant d'accepter.
D'accord, mais je veux un qualificatif au bout.
Flubert le casse-pied? Non, j'ai rien dit. Flubert le locasse?
C'est mieux. Alors, voici donc Roar. C'est un troll barbare de niveau 1, spécialisation combat rapproché. Caractère bourrin, fonceur, plutôt joueur, bricoleur, serviable, honnête et goinfre. Une fidélité à toute épreuve. Incapable de résister à un sourire, rêveur et solitaire dans l'âme. Aptitude. Ses origines mi-troll, mi-homme, lui confèrent une force et une résistance hors du commun. Il est doté en outre d'un pouvoir aléatoire qui, lancé sur l'ennemi, fait tout et n'importe quoi. Roar passe en mode berserk sans même s'en rendre compte en cas de trop forte émotion. Objet permanent. Ce troll porte un anneau attaché à une chaîne dont on ignore tout et des bracelets de cuir plus 6 contre le feu. Objet préféré. Deux épées courtes, qui pour un humain normalement constitué sont gigantesques et donc inutilisables. Technique de combat. Plutôt maladroit, car de niveau 1. Fonce dans le tas, ou à côté, ou n'importe où, en pulvérisant tout autour de lui, sans le moindre discernement. Historique. L'histoire de Roar est étroitement liée au monde des trolls. Son père, curieusement nommé le pieux paladin pieux, était en fait un humain, vaillant gaillard, que le légendaire appétit sexuel des femelles trolls laissait rêveur. Il ne résista d'ailleurs pas longtemps à l'envie d'aller s'en rendre compte par lui-même, ce qui, chose faite, lui coûta la vie. Il venait de découvrir à ses frais que les femelles trolls étaient dotées d'un fabuleux appétit tout court. Roar naquit de cette glorieuse expérience. Il fut donc élevé jusqu'à l'âge de 5 ans par les trolls, à la suite de quoi son caractère vagabond le poussa loin du clan. Ce jeune semi-troll fut recueilli par une famille de fermiers, qui misa sur son potentiel physique des plus prometteurs. Ces gens simples et près de la terre acceptèrent sans problème sa taille hors du commun jusqu'à son adolescence, et surtout jusqu'à ce que son encombrement démesuré et son phénoménal appétit ne le poussent à prendre le large de lui-même, non sans une certaine tristesse. Les années qui suivirent restent pour nous un mystère, mais il semble que notre imposant ami ait abouti à la guilde des fondateurs, avec en tête l'idée d'en apprendre plus sur ses origines. Il a découvert qu'il s'appelait Roar Jambon, fils d'Algardeus Jambon. Il n'a pas décoléré depuis et s'est lancé dans une vie d'aventurier plutôt brutale pour passer ses nerfs. Comportement. Roar essaie de dissimuler son pouvoir aléatoire dont il a honte. Il prétend d'ailleurs que la magie est un truc de malhonnête. Il devient très irritable dès que l'on évoque son nom et prend d'ailleurs soin de le dissimuler. En même temps, Jambon... Point important. Lorsque ses yeux gris-bleus virent au rouge profond, mieux vaut prendre le large. Ses origines troll ressortent. Il devient alors sauvage et incontrôlable, capable de dévorer n'importe quoi ou n'importe qui. Description physique. 2,50 m pour 200 kg. Des trolls, Roar a conservé le cuir, une ossature solide, une musculature énervante, un air farouche, peu de cheveux et des petites oreilles rondes.
Pour l'heure, notre nouveau personnage essayait d'apercevoir ce qui venait de se poser au milieu de sa courte coiffure. D'un rapide mouvement, il attrapa le fluotréal, l'observa surpris et le montra à son compagnon de jeu. « Hey, t'as vu, un gâteau apéritif qui vole ? Ah, mange pas, c'est sale ! M'en fous, j'ai jamais mangé de trucs bleus, il faut que je goûte, t'en veux un goût ?» À ces mots, la créature massive ouvrit une gueule immense d'où saillaient des rangées de crocs d'une taille tout à fait déraisonnable. Au moment où le monstre allait mettre fin à la trop courte carrière du fluotréal, le troll fut stoppé net par Éoliel qui se ruait sur lui en hurlant « Non, arrête !» Roar, mu par un réflexe inhérent à ses origines brutales, attrapa au vol la jeune femme qui se jetait sur lui et la bloqua net de son énorme patte, épargnant provisoirement le petit oiseau évanoui. « Vous en vouliez un bout ?» demanda le costaud incrédule en reposant délicatement l'elfe à moitié assommé par le choc. Éoliel mit un certain temps à reprendre son souffle, accroché au bras du troll qui semblait ne pas comprendre. « Faut surtout pas le manger !» parvint-elle à articuler. « C'est un messager des dieux !» Cette remarque sembla effrayer la grosse créature, qui jeta le malheureux oiseau sur la table comme s'il se fût s'agi d'un pestiféré. Plubert effectua le tout premier vol en marche arrière de sa courte existence et termina sa lamentable trajectoire, queue retroussée et tête ébouriffée, dans la chope du personnage un peu hagard qui partageait la table du troll. Celui-ci le regarda d'un œil mauvais. « Ah bah non, c'est dégoûtant, de la volaille dans mon verre maintenant. Garde tes cochonneries, patate, puis c'est malin maintenant, tu me fais râler et mon picrate va encore avoir un goût de betterave. » Roar ricana bêtement, repêcha par la queue l'oiseau bleu, qui bien réveillé cette fois se débattait de toutes ses griffes, pour retourner dans la chope et y replonger sa tête de soifard. « Non mais regardez-moi ce petit goulu !» ricana-t-il en portant une nouvelle fois la pauvre fluvère trempée à hauteur de sa gueule. Éoliel faillit bien défaillir des fois, mais cette fois, Roar se mit à souffler sur le messager, un peu trop fort d'ailleurs. En effet, Flubert, pris sous le vent de la monstrueuse soufflerie, se trouva séché et dégrisé en quelques secondes. Quand Roar l'aida à se stabiliser sur son doigt, Flubert était devenu parfaitement sphérique. Une jolie petite boule de moumoute, toute bleue, d'où ne dépassait ni queue ni bec. « Allez, bébère, la fiche du gâteau pâle qui ronchonne devant son nectar de betterave fait partie de nos héros. »«
Ha ! Bébère, à présent, ça fait prestigieux, je vous assure. Bon, bah moi j'ai trop mal à la tête pour protester, je vous lirai la fiche dans le prochain épisode. »
« Mais non, on a encore le temps, et puis ça t'apprendra à nager la brasse dans les chopines. »
« Tu trouves ça spirituel, narrateur. Bravo. Alors, le grand gapal là-bas, c'est Lougar, sorcier nécronome, spécialisation élémentaire de niveau 2. Caractère. Malhonnête, feignant, bourrin, faible, rusé, réfléchi et magnanime. Aptitude. Malgré son niveau 2, Lougar est particulièrement faible. Il ne possède que les trois sorts suivants. Détection de magie, résurrection de moineau, flamèche. Objet permanent. Une bague magique qui brille dans le noir. Objet préféré, il est équipé d'une robe de sorcier élimée, passée du noir au gris sale, de bottes de cuir noir et d'une besace miteuse. Technique de combat. Lougar invoque des créatures d'outre-tombe afin de ralentir les ennemis, puis il les bombarde de projectiles, ou de cailloux, faute de mieux. Ce nécromant possède également des talents pour planter une dague dans le dos d'un adversaire. Historique. Arrière descendant du célèbre Linarion Ratma, Lougar est né à Paxivius, capitale des Trois Plans, dont il n'est quasiment jamais sorti, excepté pour les vacanciers pépés. Ses parents, Ernestine et Léon Linari, sont les membres actifs de la confrérie des sorciers et mages, dont le père est premier rang nécromant. N'ayant que des talents mitigés dans cet art ancestral, Lougar s'essaya à la maîtrise des forces élémentaires, normalement réservées aux sorciers du même nom. Cette activité le passionna beaucoup moins que les rondeurs des étudiantes qu'il avait entraînées dans cette branche. Une fois son diplôme en poche, Lougar mentit sur son âge, s'inventa une nouvelle identité et rempila pour 4 ans à flemmarder sur les mêmes bancs et dans les mêmes cours. Cet étudiant longue durée s'économisait le jour pour réserver son énergie aux fêtes nocturnes et aux tournées des tavernes louches. À 22 ans, après avoir obtenu pour la deuxième fois le même diplôme, Lougar dut quitter précipitamment la capitale, poursuivi par les pères des filles à peine plus jeunes, auxquelles il avait pourtant généreusement fait découvrir les joies de l'existence. Comportement. Malgré un bon alignement chaotique, Lugar est surtout feignant de nature et consacre la majorité de son énergie à en faire le moins possible. Il n'est pas pour autant incapable, sachant en cas d'extrême nécessité, utiliser le savoir de sa prestigieuse lignée. Description physique. Humain, Lugar est un grand maigre à l'apparence négligée. Taille 1m80 pour 65 kg, cheveux noirs, yeux gris, peau claire typique des nécromes.
Et ben voilà mon bébé, on peut reprendre maintenant.
Alors là non, narrateur, la suite au prochain épisode, ça t'apprendra à me faire prendre des bains en échopine.